Signori, se ci accomodiamo, incominciamo l'incontro.
Quel canale?
Allora, innanzitutto una comunicazione di servizio sul canale 1. Potete ascoltare la traduzione in simultanea di questo incontro. Per il francese invece. Va bene, siamo in collegamento. Riprende questa sera un ciclo di incontri già iniziato alcuni anni or sono, cui abbiamo dato il titolo Conversazioni Leonardo, e nascono dalla collaborazione del Centro Culturale di Milano con alcuni amici che sono impegnati nel mondo del lavoro. Ed è proprio a partire dalla vita di lavoro, dove noi operiamo giornalmente, e dagli incontri che lì ogni giorno facciamo, abbiamo riflettuto sull'interesse che questi incontri possano avere per essere allargati ad altre persone, in quanto hanno colpito positivamente noi. Sono incontri con delle persone che sono state in grado di creare in maniera intelligente e imprenditoriale delle iniziative a cui guardiamo con interesse. Quindi questi tre incontri che proponiamo quest'anno, in questa primavera, vogliono ripercorrere l'appuntamento con alcune di queste persone. Persone che ci diranno del loro itinerario aziendale e di come in questo itinerario hanno cambiato il mercato, i prodotti, le tecnologie, l'organizzazione, gli strumenti, le motivazioni. Sono Silvio Bosetti, ho l'onore di introdurre l'incontro di questa sera, che è con un noto personaggio francese, André Mouillet, noto soprattutto per aver iniziato il gruppo Auchan, ma al quale questa sera abbiamo proposto, e lo capiremo poi ascoltandolo, questo intervento. Una risorsa per il futuro, la piccola e media impresa. Ma prima di introdurre con alcune domande l'intervento del nostro ospite, volevo raccontarvi il suo profilo estremamente interessante, il suo curriculum. André nasce da una famiglia che ha avuto 13 figli nel 1930, Il padre era un industriale tessile, in particolare è stato l'inventore della mescolanza delle fibre. Monsieur Mouillet ha 7 figli e mi risulta oggi 23 nipoti. Inizia la sua carriera professionale nel 1954 come direttore di fabbrica. Nel 1961 nasce Auchan, di cui poi vi dirò qualcosa. Nel periodo dal 62 al 1970, comunque, è direttore finanziario di Fildar, di cui ci parlerà, e ne diviene direttore generale nel 1979. Nel 1985 inizia questa avventura, di cui vorremmo conoscere meglio questa sera, Entreprendre, di cui appunto è il presidente e il fondatore. In questo periodo comunque voglio ricordare che anche nel 1991 prende possesso e dà riassetto al giornale della stampa cattolica regionale francese La Croix du Nord e nel 93 anche per La Croix du Midi. Nel 2000 possiamo dire che ha fondato ad oggi oltre 20 associazioni e ha creato 688 imprese con questa iniziativa nata nel 1985. Quindi si potrebbe dire un creatore di imprese. Volevo dare qualche riferimento comunque sulla grandezza di questo gruppo Auchan, che nasce nel 1961 a Roubaix, in una fabbrica in disuso di 600 metri quadri, dove viene creato il primo supermercato e lui comincia, mi pare, con 30 collaboratori. Il quartiere è chiamato Auchan e dà il nome poi all'azienda, che appunto la gente del posto chiama Andiamo a Auchan. Nel 1971, quindi in meno di 10 anni, nascono in tutta la Francia 26 supermercati e inizia ad imporsi anche il marchio, che prende un'apertura più nazionale. Dopo 20 anni, nel 1981, quindi 20 anni or sono, inizia anche l'internazionalizzazione del gruppo. Inizialmente in Spagna, segue negli Stati Uniti, arriva in Italia nel 1989. In seguito, negli anni 90, si allarga ulteriormente, si impianta in altri paesi, sia europei, quindi la Polonia, il Lussemburgo, la Spagna, il Portogallo, e cresce ulteriormente. In Italia diventa più noto nel 1997, quando diventa partner, insieme alla IFIL, del gruppo La Rinascente. Nel frattempo, anche insieme a questa collaborazione, aprono altri supermercati in Messico, in Argentina, in Thailandia, in Ungheria, eccetera. La prima apertura in Cina è avvenuta 2 anni or sono, nel 1999. Dal 2000, questa è una novità, nasce anche Auchan Interactive, che opera nelle attività di commercio elettronico. Ultima annotazione, nel 2001 hanno iniziato a operare anche in Marocco. Questa è quella forse più nota di attività che Andrea Mouillet ha avviato, ma questa sera lo vogliamo incontrare e vorremmo chiedergli di parlargli di un'altra iniziativa che ha colpito molto chi lo ha incontrato e chi ce lo ha fatto conoscere, e questa sera parlandone. E quindi questa impresa, fondata nel 96, Entreprendre, di cui chiederei a Monsieur Mouillet di dirci innanzitutto ovviamente che cos'è, ma soprattutto noi vorremmo capire il perché, ovvero il motivo di fondo di questa iniziativa, come prima domanda. Quindi raccontandoci attraverso le slide che lui ha preparato quello che è, capire anche le ragioni e i motivi per cui ha iniziato questa cosa. E la seconda domanda, cui vorremmo lui potesse risponderci, quali fatti nella sua esperienza, lunga esperienza umana e professionale, maggiormente gli hanno fatto capire questo motivo di fondo. Ringrazio innanzitutto per questo intervento e do la parola a Monsieur Mouillet. Forse bisogna spegnere.
Spegno un attimo.
D'abord, votre conférencier a tout faux. Je ne suis pas Gérard Mouillet. Je suis André Mouillet. Mon cousin Gérard, je ne le connais pas. Et comme on me prend souvent pour lui, j'ai affûté une réponse. Je dis toujours, je ne le connais pas, mais nos pères sont frères. Nos mères sont sœurs, nos femmes sont cousines germaines, et ils gagnent de l'argent, moi je m'en sers. Bon, ceci pour dire que dans le groupe Mouillet, qui j'ai tout de même bien connu et qui a été mon outil de mon travail toute ma vie professionnelle, j'y ai exercé les fonctions de directeur financier, de directeur juridique. Autrement dit, j'ai construit toute la structure juridique et financière de ce qui est aujourd'hui le groupe Mouillet, qui effectivement est énorme. Quand on vous a parlé tout à l'heure d'Auchan, mais on ne cite pas les autres firmes. Et j'en viens déjà à la conférence de ce soir pour vous dire que nous avons dans nos chromosomes reçu de notre père et notre mère une volonté de créer. Deux illustrations. À la sortie de guerre, mes oncles et mon père avaient 3 entreprises où il y avait 500 ou 1000 personnes, tous ensemble. Maintenant, on a 18 ou 20 marques qui ont entre 150 000 et 200 000 personnes. Le vrai chiffre, on ne le dit à personne. Et en plus, on a tous fait des enfants dans tous les sens. Dans tous les sens, bon, je sais bien que j'ai affaire à des gens sérieux ici. Bon, ça veut dire que mon père a eu 13 enfants, moi-même j'en ai eu 7. Et ma chère maman, qui est encore vivante, elle a 97 ans, a eu donc 13 enfants, 57 petits-enfants, 140 arrière, 6 arrière derrière. Et en plus, les oncles, en 1952, devant l'arrivée de tous ces enfants, plutôt que de laisser les pères trouver un boulot pour leurs enfants, ont décidé, ça a été là l'acte baptismal de notre groupe Mullier, ont décidé que nous resterions tous ensemble dans toutes les entreprises avec le même pourcentage. Donc pas d'abus de bien social. Je vous en ai dit assez ou presque sur la partie professionnelle sur laquelle je n'ai pas le droit de parler parce que chez nous on cultive le secret. Alors, je continue demain un tout petit peu en disant que, et je réponds à la question qu'on m'a posée, j'ai été responsable de Fildar, PDG de Fildar, vers 78-83, au moment où vos épouses et vos filles, vos petites filles ont arrêté de tricoter. Fildar était le plus gros fabricant de laine à tricoter d'Europe. On avait 3600 emplois. J'ai dû faire un licenciement collectif, le premier, pour 600. Ça m'a foutu un coup de bourdon, parce qu'on n'est pas dans une famille qui crée des emplois au nombre que je vous ai déjà cité. Et quand on est soit chargé d'en liquider, ça m'a mis en bonne déprime, que j'ai mis un moment pour m'en sortir. Mais une des manières de m'en sortir, ça a été de dire, non d'un chien, j'ai dû casser de l'emploi, et ben je vais me venger, je vais être fabricant d'emploi. Et comme un industriel, pour fabriquer des emplois, il faut fabriquer des employeurs. Ça va bien plus vite de créer des employeurs qui créent des emplois. La croissance est beaucoup plus grande que de vouloir les faire soi-même. D'où on a inventé le métier de la création d'entreprise. Avec une douzaine de mes cousins, on a lancé à Roubaix une association d'aide à la création d'entreprise. On se demandait si ça réussirait. J'ai pris un risque considérable au mois de septembre 86. J'ai embauché un directeur qui m'a coûté très très cher, parce qu'il les valait, alors que je n'avais aucun candidat à la création d'entreprise, on n'avait aucune expérience dessus. Il y avait une secrétaire qui me donnait un petit peu de temps libre. Et c'est grâce à cet investissement dans l'homme que nous avons aujourd'hui 20 associations. Alors, quel est le métier de l'entreprendre? Maintenant, on peut peut-être réouvrir. Je vais me mettre un petit peu sur le côté pour ne pas être trop aveuglé. Bon. De toutes les façons, vous entendez plus le traducteur, mais il faut qu'il m'entende, lui. Bon. Mais là, je ne vois pas. Alors, donc, qu'est-ce que notre métier? Accueillir les créateurs, les candidats à la création d'entreprise. Et mon étonnement qui dure toujours, c'est qu'on n'a pas besoin de pub, ils arrivent. Et leur renvoyer un écho constructif. Il faut professionnaliser leur projet, le valider. Et une fois qu'on l'a bien validé, à travers un comité d'agrément qui travaille comme s'il prenait une participation et qu'il embauchait un cadre, avec des règles précises comme par exemple il prend ses décisions à l'unanimité. On transforme le lauréat en membre de l'entreprise, en membre de notre famille de création. On appelle ça lauréat. Et on lui montre tellement notre confiance qu'on lui prête sans intérêt ni caution entre 100 et 300 000 francs par an, mettons 200 000 francs français, il faut traduire en lire, je ne sais pas combien ça fait moi, à 3-5 ans, c'est pas une somme négligeable, hein? Bon. Et nous l'accompagnons pendant 3 ans, parce que le départ d'une entreprise, comme la naissance d'un enfant, ça a des maladies infantiles qui sont faciles à soigner et pourtant mortelles quand on ne les soigne pas. Donc on a voilà, j'écoute en italien. Bon, suivre et accompagner pendant 3 ans. Pourquoi faire ? Pour rompre son isolement. Le premier moyen, c'est un club où il est obligé de venir. Il signe par écrit au moment où il reçoit le chèque qu'il doit y venir 10 fois par an. Ou dans la convivialité et l'amitié, il partage avec les 15 gamins de l'année. Gamins qui ont entre 28 ans et 58 ans. Hein. Ils ont les nouveaux créateurs. Et si on en a 25 ou 30, on fait 2 clubs. Parce que quand on est plus de 15, on n'est plus des amis, on est des connaissances. Or là, le réseau, qui est d'ailleurs une chose que vous connaissez très bien, je pense, dans votre une mentalité que vous connaissez bien dans votre organisme ici. Donc, rompre l'isolement. Et ça se passe toujours au milieu d'un repas, pour que ce soit convivial. Ça dure 3 heures. Premier tour de table, chacun explique les réussites du mois qu'il a eues. Deuxième tour de table, les difficultés ou les échecs. Et c'est à travers la table que les 15 gamins de l'année se répondent. Et comme ils y sont passés récemment ou qu'ils vont y passer, leurs conseils sont très bien reçus. Et l'entraide entre eux se développe fort. Et pendant ces clubs, on leur donne aussi 1 heure de formation sur le contrôle de gestion, la prévision de trésorerie, la stratégie commerciale, la manière d'embaucher et de licencier. C'est amusant d'embaucher. C'est difficile de licencier. Il faut savoir le faire. La manière dont on doit écouter ou ne pas écouter son banquier ou dont on doit s'arranger pour que le banquier vous écoute. En gros, on les entraîne au métier de chef d'entreprise. On leur met aussi un parrain ou accompagnateur. Pas 2 ou 3, parce que sans quoi c'est les accompagnateurs qui prendraient les décisions. Alors que l'accompagnateur doit simplement être le miroir qui rend logique les intuitions du jeune créateur. Ensuite, pour les insérer plus vite dans la vie économique, on a signé avec 20 d'entreprises le principe qu'à notre demande, les lauréats seraient reçus par un cadre efficace de leur entreprise, qui est rarement le chef d'entreprise lui-même, parce que, surtout quand il a plus de 1000 salariés, il a trop habitué à donner des ordres et pas à écouter les difficultés. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le niveau N-2 ou N-3. C'est celui-là qui est le plus utile pour le jeune créateur. Je n'ai pas tout à fait répondu aux questions que vous m'aviez posées tout à l'heure. J'ai indiqué pourquoi j'avais démarré. Je n'ai pas indiqué les deux racines de ça. Les deux racines, c'est, je l'ai nommé la première, c'est que nous sommes dans une famille où la création d'entreprise, la création d'emplois est dans nos gènes. Et on est tous on a été éduqués dans l'Église catholique et romaine. Donc on a appris un petit peu dans l'Évangile ou dans la Bible que il fallait croître, se multiplier et dominer la terre. Donc on pense que la création fait partie du bonheur de l'homme. Donc, créer le monde, aider les gens à créer le monde. Et pourquoi sommes-nous totalement désintéressés? Je vais y revenir plusieurs fois, mais là je vous donne tout de suite la clé. C'est que dans toute ma vie professionnelle, j'ai marché sur deux pieds, un pied professionnel et un pied dans les activités non lucratives. Les écoles libres, les allocations familiales, président d'une banque de crédit, membre du conseil régional du Nord, etc. Membre des équipes Notre-Dame, membre des cadres chrétiens, etc. Bon, beaucoup. Et j'ai découvert que, j'y ai vraiment découvert que l'argent est un moyen, un excellent moyen, mais un très mauvais but. Et que quand on est désintéressé, c'est-à-dire qu'on dit au lauréat qu'on prend, mon but c'est que tu réussisses, et que ce soit vrai, ça veut dire qu'on a refusé tout pouvoir contre lui ou sur lui, et du coup il vous rend une autorité formidable. Je ne peux pas le contraindre à faire, alors volontiers il m'écoute dans mes conseils. Alors, ça c'est un petit peu de théorie, revenons à du plus concret. Nous sommes une association de chefs d'entreprise qui aident des créateurs d'entreprises, futurs PME, avec des méthodes d'entreprise et avec une conviction forte. L'important, c'est l'homme. L'homme. L'association de chefs d'entreprise, on fait attention à la qualité des hommes à qui on demande de donner un coup de main. On fait attention à la qualité des lauréats, des candidats à la création d'entreprise. J'ai coutume de dire que pour réussir une entreprise, 51% c'est la volonté de l'homme, la qualité de l'homme. Et les 49% qui restent, se partage dans quel produit ou service, pour quelle cible de clientèle. Et ce produit ou service, cible de clientèle, doit être à l'intérieur de la volonté. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on peut aller lui dire, prends telle idée. Il faut que ça vienne du bonhomme. Là, vous ne voyez pas grand-chose, je vais le lire rapidement. Quel est notre mode d'intervention? Évaluation, validation des projets de création. Octroi de prêt d'honneur sans intérêt ni garantie, je l'ai déjà dit. Intégration dans un réseau économique. Accompagnement pendant 2 ans. Et on le fait en rendant un écho économique professionnalisé, en apportant une contribution financière qui est la preuve de la confiance qu'on lui fait. Et du coup, les banques qui en France sont aussi frileuses qu'en Italie, pas plus. Les banques sont très contentes qu'on les a bien étudié le dossier. Et l'effet de levier fait qu'elle prête en moyenne 3,4 fois plus que nous. Alors qu'avant qu'il ne soit lauréat, les banques les refusaient, ils le mettaient dehors. insérer plus vite l'entreprise créée dans les vies économiques et entraîner le nouveau chef d'entreprise à son métier par un échange d'expériences. Quelle est la spécificité ? Notre cible, c'est le petit projet à potentiel. Tout à l'heure, je vous donnerai un autre slide, il n'est pas au bon endroit, pour vous montrer ce que veut dire petit projet potentiel. Non, laissez-le comme ça. Non, c'est pas ça. En gros, je sais par cœur, vous savez, en Italie comme en France, on me l'a signalé tout à l'heure, 75% des entreprises créées sont des entreprises que nous appelons monocellulaires. C'est un monsieur qui veut créer son emploi, à la rigueur suite sa femme. 16% veulent créer 2-3 emplois. 5% veulent créer 3-4, mais il a envie d'être 10, 100 ou 200. Ça, c'est notre cible. Et il reste 1% qui sont créés par des gros organismes financiers ou des chefs d'entre des grosses entreprises. C'est pas notre métier. Donc, voilà ce que veut dire petit projet potentiel. Association de chefs d'entreprise, vous l'avez déjà compris. Relations qui se veulent aussi interpersonnelles que possible. Donc, c'est pas du tout ni l'aspect guichet, ni l'aspect règlement. C'est un vrai parcours proposé au créateur, avant sa création, après sa création. C'est un accompagnement fondé sur l'échange et le partage d'expériences, c'est le club. Les objectifs sont plus qualitatifs que quantitatifs. Si bien que les lauréats, surtout quand ils ont remboursé, ont oublié qu'on leur avait fait un prêt, mais ils se souviennent formidablement de l'entraide avant création et après création. Voilà la rigueur de notre sélection. Sur le seul Nord Entreprendre, je ne sais pas si c'est très lisible que c'est Nord Entreprendre, c'est donc pas sur les ensembles. L'année dernière, il y a eu 520 personnes qui ont téléphoné. Il y en a 124 qui ont eu des rencontres d'orientation qui le plus souvent se concluent en disant « Vous n'êtes pas un petit projet à potentiel, allez plutôt voir l'ADI, Association pour le Développement de l'Initiative Économique, je pense. » qui, elle, s'occupe des petites entreprises. Il y a 65 projets qu'on a suivis et conseillés. Il y en a 31 qu'on a présentés au comité d'agrément. Et 24 qui ont été retenus définitivement. Là, c'est pour que, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pour que vous le reteniez bien. Parce que c'est essentiel, c'est après la naissance. Le club, échange et partage autour d'un repas, par groupe de 15, de 12, 15. C'est une formation, 50% gestion, 20% dynamique humaine, 15% stratégie, 10% commercial. Et à notre étonnement, ils insistent beaucoup sur le point dynamique humaine, c'est-à-dire l'occupation du temps, leur qualité, etc. Accompagnement personnalisé, ça c'est l'accompagnateur, le parrain, et l'envoi mensuel du tableau de bord. Comme un jeune créateur d'entreprise n'aime pas beaucoup les chiffres, on ne lui donne que la moitié de son prêt tout de suite, le lendemain de la décision. L'autre moitié, le sixième mois, si on a eu 6 fois le contrôle de gestion. Et si on n'a pas eu le contrôle de gestion, il n'a pas sa deuxième partie de prêt. Donc, accompagnateur, je n'insiste pas. Le graphique suivant, retenez-en l'image. Le créateur est au centre et tout le monde est groupé pour l'aider. Si je le prends par chef d'entreprise, qu'il rapporte ce que c'est qu'une stratégie, des lauréats des promotions précédentes qu'il rapporte leur expérience, je le développerai tout à l'heure. Des consultants partenaires qu'il rapporte de la matière grise, des grandes sociétés locales, je vous en ai parlé tout à l'heure, le comité d'engagement coopté, ils sont cooptés par des chefs d'entreprise, vous faites partie de notre famille désormais. Et comme on réussit assez bien, parce que notre taux de casse est le taux de casse moyen de la création d'entreprise en France, en Italie ça doit être pareil, hein, c'est 50%. Et nous, on a fait tomber ce taux de casse à 15%. Et si on avait moins de 15%, je ne serais pas très content, parce que ça aurait voulu dire qu'on est trop exigeant à la sélection. Donc il y a beaucoup d'associations associées, et puis ensuite il y a des clubs. Les accompagnateurs, bon, je vous ai expliqué tout ça. Ça, c'est le premier métier que Marc Saint-Olive et moi avons mis en place. Comment pouvions-nous nous développer, puisqu'on en a une forte envie? Pas sur place, parce que, comme on désire, l'homme est en premier, que la distance entre le créateur d'entreprise et l'endroit où il vient se ressourcer ne doit pas lui demander plus d'une demi-journée de déplacement, y compris le travail. Premièrement, la distance. Deuxièmement, on accompagne les créateurs d'entreprise pendant 3 ou 4 ans, une année de validation et de création, et 3 années ensuite, 4. Si on en fait 20 par an, 4 fois 20, ça fait 80. Ça veut dire que le directeur de l'association doit connaître personnellement et suivre 80 personnes. Ben, c'est la limite tout juste au-delà de laquelle on est obligé de se fonctionnariser. Donc, si on veut se développer, il fallait le faire ailleurs. Comme mon adjoint, mon directeur, Marc Saint-Olive, c'est un Lyonnais, eh ben, en 92, on a trouvé 5 chefs d'entreprise lyonnais et qui nous ont dit, ça nous intéresse votre truc, vous ne pourriez pas nous aider à en faire autant. Et on l'a fait. Et depuis ce temps-là, vous avez la date en haut du mois de mars 2000, donc il y avait un an, le Nord avait 249 entreprises créées et Rhône-Alpes, qui n'est né qu'en 92, en avait 105. En 95, c'est la Normandie qui nous a demandé à Rouen. En 96, c'est Bordeaux. En 97, Tarn et Calais-Boulogne, Côte d'Opale. 92, c'est Paris, enfin c'est Seine-Saint-Denis, et Dromardèche Entreprendre. En 99, je ne sais pas ce qui nous a pris, je vais vous dire ce qui nous a pris, c'est qu'on a déjà compris qu'on devait le faire par d'autres. L'Isère et la Loire sont très près de Lyon, donc c'est Lyon qui a fait Isère et la Loire. L'Adour est très près de l'Aquitaine. C'est l'Aquitaine qui a fait l'Adour. Savoie, c'est aussi Lyon. PACA, c'est Roubaix. C'était trop loin, Marseille, ça. Ouest, c'est Rennes. Sud-Île-de-France, chez Paul Dubrul, Fontainebleau. Et Artois Entreprendre, c'était fait par Nantes Entreprendre. En l'an 2000, il y en a 6 de plus. Et en 2001, il y en a encore 5 de plus. Voilà comment on a essaimé. Non, vous allez sauter celui-là. J'y reviendrai peut-être, mais laissez de l'autre côté. Alors, ça donnait ça, donc. C'est la carte de France. Donnez le suivant, il va aller très vite à lire. Non, le suivant, celui-là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la répartition en fonction de la taille à la naissance. Donc 78% un emploi, 16% 2, 3, 5% 3 à 10, c'est là que nous sommes, 1% les grosses entreprises. Alors, remettez celui que j'avais mis de côté. C'est pas bon, je vais vous le dire verbalement. Comment on fait pour créer une nouvelle association? Eh bien, je suis en train d'en créer une ici. J'espère que ça vous fait sourire. Je commence par aller prêcher la bonne parole à 5 ou 6. S'ils sont convaincus, ils décident de mettre en place une étude de faisabilité pour que les 5 ou 6 savent s'ils pourront passer à 40, 50 ou 80 chefs d'entreprise. Parce que qu'est-ce qui finance tout ça? C'est les chefs d'entreprise. À Roubaix, je suis un peu beaucoup émulé, mais ailleurs pas. D'ailleurs, c'est les chefs d'entreprise des alentours. C'est pour ça que l'étude de faisabilité doit regarder si de 5 qu'ils sont au départ, ils sont capables de passer à 80 ou 100. Deuxième objet de l'analyse, est-ce qu'il y a des créations d'entreprises dans le secteur? À Milan, je suis tranquille, il y en a, tout bien. Troisièmement, est-ce qu'il y a d'autres associations d'aide à la création d'entreprises pour que on soit toujours en relation de collègues et jamais de concurrents? Puisque moi j'ai pris le petit projet à potentiel, ceux qui s'occupent de la création des toutes petites entreprises ne doivent pas apprendre par les journaux que nous existons et ils doivent être contents de notre arrivée. Et on doit immédiatement mettre des relations agréables avec eux. Alors il paraît qu'ici vous n'attendez aucun sou des gouvernements ou des collectivités publiques. En France on en attend un petit peu, donc dans cette étude de faisabilité, ils vont tout de même étudier les collectivités territoriales. Si l'étude de faisabilité est positive, au bout de 3-4 mois, ils font une assemblée générale, où là ils sont aussi nombreux que vous aujourd'hui, où je réexplique notre mécanique, puis je les laisse en leur disant, maintenant si vous voulez, vous le faites. Et ils transforment la réunion en assemblée générale constitutive. tout ça a été bien préparé à l'avance, et il est évident qu'ils se sont mis d'abord d'accord, la petite équipe des cinq, qui serait le conseil d'administration, qui serait le président. Est-ce que l'ingénieur conseil à qui on a demandé de faire le boulot, il trouve que le sujet est suffisamment intéressant pour qu'il en devienne le directeur? Ou qu'au contraire, s'il n'est pas bon, il n'y a pas obligé. Mais le plus souvent, c'est l'analyste qui devient le directeur de l'affaire. Et puis il démarre. C'est-à-dire que le bouche à oreille fait savoir aux gens qui ont envie de lancer leur entreprise qu'il y a là des gens originaux qui veulent bien les aider, leur prêter même de l'argent sans devoir mettre en caution leur maison, leur voiture ou leur grand-mère. Et donc, ça a l'air pas mal, et ils viennent. Et mon grand étonnement, nous n'avons jamais dû faire de publicité dans aucun secteur de France, et on a eu du monde qui est venu. Non, ça se veut être le schéma de la création, mais il n'est pas bon ce truc. Je préfère que l'un ou l'autre d'entre vous me dise si j'ai été clair dans mon explication de la création d'une nouvelle association, et si j'ai pas été clair, je le ferai autrement. Je vous donne maintenant quelle petite question. Je réponds aux questions que vous n'avez pas encore posées. Ça va? J'entends le traducteur, ça marche. Nos créateurs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils faisaient avant de créer? 4% étaient des indépendants purs, 65% étaient des salariés, 28% des chômeurs et 3% des étudiants. Parce que nous avons comme objectif le petit projet à potentiel. Alors que la même catégorie en France entière, les indépendants représentent 31% des créations d'entreprises, vous le voyez juste en dessous. Et chez nous, 4. Les salariés représentent 30% en France entière, chez nous, 65%. Les chômeurs, c'est à peu près pareil, 28%, 30%. Et des étudiants, on en a moins. Les nouveaux chefs d'entreprise, est-ce qu'ils ont une expérience professionnelle avant de commencer? 7% avaient 3 ans, moins de 3 ans. 11% avaient 3-5 ans. 15% avaient 6 à 9 ans. 43% avaient 10 à 20 ans. Et 24 avaient plus de 20 ans. Et en moyenne statistique, c'est 13 ans et demi. Mais je trouve que la dispersion est plus intéressante que la moyenne. Quel est le niveau de formation des lauréats? Moins que le bac, 24%. Bac et bac plus 2, 32%. Bac plus 3 et plus 44%. Au plan national, c'est l'inverse. Les bac plus 3 sont 28% et les moins de bac sont 41%. À quel âge crée-t-on les entreprises? 17% de moins de 30 ans. 42% 30 à 40, 34% 40 à 50, et 7% 50 à 59 ans. Ils sont beaucoup trop vieux, mais je rencontre souvent des gens à cet âge-là qui ont décidé de ne plus vieillir. Alors ils font de bons créateurs d'entreprises. Alors, ici, un peu compliqué à lire, surtout qu'il n'est pas très fort. Pourtant, c'est important parce que, en gros, vous avez à gauche ceux qui sont arrêtés. 8% ont cédé leur entreprise. 7% ont une à deux personnes. 11% 3 à 5, 14 6 à 10, 14% 10 à 20, 13% de 20 à 50 et 2% plus de 50. Donc de plus de 10, 29, plus de 5, 41 et la taille moyenne pondérée. Ça, il faut l'avoir fait le calcul pour le s'en rendre compte. C'est de 14,4 personnes. C'est pour ça qu'on dit bien des petits projets à potentiel. 14 personnes, c'est plus des bricoles. Et dans notre top 20, les plus gros sont 250 personnes ou 200 personnes. Et 200, 250 millions de chiffre d'affaires. De francs. Vous avez été très sage. Éteignez-moi cette lumière parce que je ne vois pas la salle. Switch off. J'ai terminé. De chic, mais je suis à votre disposition et j'espère que vous allez avoir beaucoup de questions parce que moi j'ai beaucoup de réponses. Écoutez, attendez, tant pis pour vous, vous devez encore écouter. Je n'ai pas de slide, mais quand on a fait tout ça, on a réfléchi que quels sont les principes qui nous guident. Mais, comme toute bonne charte, on l'a découvert après coup. On a agi en fonction de son dynamisme et de son cœur. Et devant créer des nouvelles as, voulait dire association entreprendre. Quelles sont nos valeurs fondatrices, notre vocation et nos objectifs? Quels sont nos principes d'action pour le national et pour chaque association? Alors, je ne vous lirai pas le tout, sauf la première page, parce que c'est pour moi la plus importante parce que c'est les valeurs fondatrices. Mais je répète, je les ai découvertes après les avoir vécues. Et non pas l'inverse. Hein. Trois valeurs fondatrices. L'important, c'est l'homme. Deuxièmement, la gratuité. Troisièmement, la réciprocité. L'important, c'est l'homme parce que c'est en même temps l'ouvrier et l'objectif de toute action humaine. L'argent, qui est un objectif pour beaucoup, n'est jamais qu'un moyen. Si je le compare à l'essence, bon, les gens vont vite le comprendre, avec l'essence, je n'en mets pas beaucoup dans mon coffre-fort et je sais que ça me sert simplement à faire des kilomètres. Et l'argent, c'est pareil, sauf que là, je peux malheureusement le mettre en coffre-fort. Mais c'est pas plus utile. Et vous pouvez faire la même comparaison avec le sang que nous avons tous. Ce qu'on mange passe dans notre sang. Mais le sang n'est jamais un but. Et quand on a trop de sang, on a un coup de sang. Quand on a trop d'argent, on n'a pas de coup d'argent, malheureusement. Bon. Donc l'important, c'est l'homme. Servir l'homme à travers la création d'entreprises. Aider l'homme à se construire et à se monter par la vie économique, parce que c'est ce que je savais faire. Si j'étais un grand sportif, j'aurais très bien pu faire la même finalité, mais avec le sport. Si j'étais un musicien, je pourrais le faire avec la musique, etc. Donc l'important, c'est l'homme. Moi-même, ce que nous demandons, à qui nous demandons de donner un coup de main, il faut les choisir pour leur qualité humaine aussi. Nous sommes des entrepreneurs qui aidons des créateurs à devenir chefs d'entreprise. Et ce qui est aussi le propre de l'homme, dans la confiance partagée. Nous savons tous, pour l'avoir vécu à titre d'enfant ou à titre de parent, que la confiance qu'on reçoit ou qu'on donne à nos enfants est essentielle pour leur construction. Et la méfiance dont quelquefois on les abreuve, c'est un moyen très efficace pour les déstabiliser et les abîmer. Et c'est vrai aussi dans notre vie professionnelle. Cette confiance n'évite pas du tout l'exigence. Donc l'important, c'est l'homme. Le deuxième, la gratuité. Prêt d'honneur comme instrument financier accordé à la personne qui entreprend. Et pas à son entreprise d'ailleurs, remboursable sans intérêt ni garantie. Pas de prise de participation, sauf remboursement préalable du prêt d'honneur, des membres de l'association dans les entreprises lauréates. Des conseils et des accompagnements gratuits, et le lauréat reste dans l'indépendance totale. Troisième valeur fondamentale, la réciprocité. Quand on fait la charité, quand on aide le voisin, il faut faire très attention qu'on ne l'abîme pas, qu'il ne le reçoive pas comme une condescendance, et qu'on ne se prenne pas soi pour un grand bonhomme qui est charitable. Par contre, cette crainte disparaît quand on ne donne pas mais on échange. Je te donne ceci, toi tu donnes cela. Ça n'est pas forcément argent contre argent. Ça n'est pas forcément à celui dont j'ai reçu. Si je veux à tout prix rendre à celui dont j'ai reçu, je ne suis pas le maillon d'une chaîne de solidarité. J'en suis le cul-de-sac. Pour être un maillon de la chaîne, il faut que je reçoive d'une main et que je donne de l'autre. Pas forcément en même temps, pas forcément la même chose, pas forcément au même. Mais cette réciprocité grandit fort les hommes. Et je vous ai déjà dit à un autre moment que les lauréats que nous avons beaucoup aidés à créer leur entreprise, par tout l'environnement humain qu'on leur a mis, beaucoup plus que par la finance. Ils oublient la finance. Ils se souviennent de l'environnement humain. Dès qu'ils ont 7 à 8 ans d'entreprise, ils reviennent spontanément pour aider les nouveaux. Et si je dis 7-8 ans, c'est que l'expérience me montre qu'il faut 3 ans où là on travaille 70 heures par jour à un prix, un salaire minimum. Puis si on a franchi cette étape, ça va un petit peu mieux. Et au bout de 7-8 ans, l'entreprise a pris son étiage normal. On ne peut pas demander à un jeune créateur de rendre, sauf exception bien sûr, hein, avant 7-8 ans. Bon.
Va bene, allora accogliamo il suggerimento delle molte risposte che il nostro ospite ha pronte. Qui c'è un microfono, quindi se vogliamo fare delle domande, vedo c'è una mano alzata là.
Grazie, buonasera, mi chiamo Antonio Findanno, la ringrazio per quello che ci ha detto, innanzitutto perché mi sembra un approccio rivoluzionario a quello che è il mondo dell'economia, se così posso dire. E le chiedo se può dirci o dirmi più a fondo perché l'insistenza sulla creazione, perché si chiamano creatori gli imprenditori che partecipano alla vostra associazione. Grazie.
On dit souvent chef d'entreprise. Mais ma conviction personnelle, c'est que nous sommes fils du Créateur, et pour être semblable à lui, c'est-à-dire aussi heureux qu'il l'était la première semaine où il a un petit peu travaillé, là, ben, il faut être créateur. D'ailleurs, il nous a bien dit que de créer des enfants, c'était sympathique, quoi. Ça crée beaucoup de soucis, mais enfin. Et puis, c'est vrai, celui qui fait une nouvelle entreprise, il crée quelque chose qui n'existait pas avant. Fait de la vie. Il faut que je... Oui, il faut que je fasse attention parce que nous n'accompagnons pas les repreneurs d'entreprise. Et j'en ai un peu de regret. Et si on ne le fait pas, c'est parce que comme entrepreneur, je sais que pour faire bien un métier, il faut se spécialiser dans un métier. Et nous sommes spécialisés dans le métier de l'aide aux créateurs d'entreprises de petits projets à potentiel. S'il a plus de 2 ans d'ailleurs, on n'aime pas beaucoup le prendre. 2 ans de naissance. La naissance étant la première facture d'un client qui paye, hein. C'est pas les papiers administratifs, hein. J'ai pas bien répondu à la question, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse.
Rispetto alla dinamica che lei ha descritto, per il lavoro che svolge la sua rete, Mi interesserebbe capire o come vede lei il rapporto tra associazionismo e il ruolo dell'istituzione pubblica rispetto alla promozione o alla valorizzazione di una di un lavoro come quello che lei ha descritto.
Là, je pense qu'on ne peut pas beaucoup comparer, d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure, l'Italie et la France. Aujourd'hui, en France, les politiques, depuis 1990-92, se sont mis à découvrir que les créateurs d'entreprises, les chefs d'entreprise plus exactement, n'étaient pas simplement des gens à tondre, qu'ils considéraient comme des voleurs s'ils avaient réussi, ou des imbéciles s'ils avaient échoué. Ils ont trouvé que tout d'un coup, il en manquait, et que du coup, on manquait d'emploi. Un petit peu de théorie là, si je prends deux minutes. Je dis que pour faire une entreprise d'une grande taille, il faut entre 10 et 20 ans. Mettons 15 ans. Donc les entreprises qui manquaient en France en 1995, ce sont celles qui auraient dû démarrer en 1975-80. Par des gens qui avaient 30 ans. Donc, qui était au lycée en 1960-65. Eh bien, en 60-65, tous leurs professeurs leur disaient « Le but de la vie, c'est d'être fonctionnaire. Vous êtes tranquille, vous avez une promotion facile, et vous n'avez pas de risque. Faites pas comme ces imbéciles qui font des entreprises. » Ben, les enfants qui avaient l'âge où on dessine sa vie, c'est-à-dire la seconde première terminale. Moi, je crois que c'est à cet âge-là qu'on dessine sa vie. Et c'est avant même les études supérieures. Bon, eh bien, comme on l'a pas appris aux jeunes du lycée de ces périodes-là, ben, on en a manqué. Et il y a un changement maintenant. Le nombre de créateurs d'entreprises par des jeunes sortant d'école supérieure a doublé, mais enfin il est passé de 3% à 6%, hein. C'est pas encore terrible. Mais ça montre. Je sais pas si j'ai très bien répondu à la question aussi.
Soddisfatta?
Sì, a me interessava magari capire anche meglio proprio secondo lei, perché a me mi sembra di capire che il percorso che lei ha descritto è molto interessante e molto efficace. A me sembra che l'istituzione si debba mettere a servizio e favorire questo tipo di processo. Allora ci sono diversi modi per farlo. Oppure per non farlo.
Oui, merci de me l'avoir rappelé. Je n'avais pas répondu du tout, effectivement. J'ai commencé ma réponse. Actuellement, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'effectivement, il fallait aider à la création d'entreprises et qu'on en manquait. Oh tiens, j'avais enlevé un slide, là on pourrait le repasser, mais non. Où le nombre de créations d'entreprises en France, qui était 201 000, est descendu à 160 000. Et ça leur a fait peur. Du coup, ils se sont imaginés que c'est eux qui devaient, puisque nos politiques pensent que c'est tout à eux à le faire, qu'ils devaient aider la création d'entreprises. Et en France, il y a quatre grandes associations d'aide à la création d'entreprises. Il y a l'ADI, l'aide lancée par Madame Maria Novak, qui s'occupe des tout petits crédits. Il y a FIR, France Initiative Réseau, qui a créé des plateformes d'initiatives locales. Mais là, ils disent qu'ils font tous les tailles d'entreprises, mais leur crédit moyen est de 50 000 francs, qui montre bien qu'ils sont dans le beaucoup plus petit que le nôtre. Et ils sont très appuyés sur les collectivités territoriales. Bon, ils font du bon travail tout de même. Par contre, en France, vous avez la Caisse des dépôts et consignations, qui est une espèce de banque de l'État français. Et lui, il a un programme d'aide aux entreprises et les prêts sans intérêt ni caution que nous faisons sont à concurrence de 30%, nous sont financés par la Caisse des dépôts et consignations. Une compagnie d'assurance vie, d'assurance vieillesse et de sécurité sociale complémentaire par rapport à la sécurité sociale d'État, a l'intention de nous aider à faire un deuxième tiers, ce qui limitera notre quête au financement de la validation et accompagnement et à un tiers des prêts d'honneur. Donc, le gouvernement voudrait nous encourager, mais pour un bon fonctionnaire, nous encourager, ça veut dire nous encadrer, ça veut dire nous mettre des règlements, nous donner des bons points, des normes. Bon. Vous savez que les chefs d'entreprise, ils n'aiment pas beaucoup qu'on vienne leur dicter leur manière de faire. Hein. Donc le gouvernement nous regarde aujourd'hui et il me fait faire partie d'un certain nombre de commissions où il y a énormément de fonctionnaires, où nous on a l'impression de perdre son temps. Oui, c'est pareil en Italie, hein. on n'en fait pas.
Sono delle domande, una qui davanti, poi dietro.
Volevo chiedere qual è il collante, cioè per chi partecipa ai vostri circoli, che differenza c'è rispetto, non so, alla partecipazione a un Rotary, a un Lions, che, associazioni che non conosco per intenderci, quindi lo chiedo a lei, piuttosto che associazioni tipo, non so, mi viene in mente l'Opus Dei, dove mi pare che comunque ci sia un discorso proprio di collaborazione fra persone di alto livello che si muovono in ambito economico, insomma.
Je ne vais pas dire que je prends la place de ces clubs-là, hein. Ils doivent qu'on continue. Mais je dois plutôt dire que nous avons constaté que pour aider un nouveau créateur d'entreprise, il fallait lui imposer de faire partie d'un club de gamins du même âge, c'est-à-dire de nouveaux créateurs comme lui. À 12-15, pas plus, parce que plus de 15, on n'est plus des amis, on est des connaissances. premier club dure une journée entière, où chacun des membres explique ce qu'est son entreprise. Et puis, comme toi et moi, il doit expliquer au voisin s'il a passé un bon ou un mauvais mois, et qu'il se rende service réciproquement, ça crée au bout de 2 ans une telle bande d'amis que dans n'entreprendre que je connais mieux, quand on leur dit, nous on a fini, ça va, débrouillez-vous. Eh bien, ils continuent et ils font un Lions ou un club entre eux. C'est très bien. Mais on l'a imposé au départ pour qu'il y ait cette réciprocité d'entraide.
Vorrei chiederle di fare qualche esempio del tipo di azienda di cui avete favorito la creazione, cioè se date poi preferenza ad aziende che creano imprese di, so che io, elevata tecnologia, oppure aziende che possono fare anche attività di tipo molto normale o di servizi di non particolare elevata tecnologia o qualità, ecco. Può fare qualche esempio in ogni caso.
Je suis pauvre en informations objectives aujourd'hui. D'abord, un principe, c'est que nous n'en avons pas de principe. La seule question qu'on se pose, c'est a-t-il des chances de réussir ? C'est l'unique demande. Et j'ai tout de même ici, mais c'est très rassemblé, les 3 grands secteurs des 5 dernières promotions ont été dans les services 49%, dans l'industrie ou assimilée 43%, dans le négoce distribution 8%. Et depuis 3-4 ans, on voit fleurir les NTIC, vous savez, les gens qui jouent avec des souris, là. Je m'en moque un peu parce que moi, je suis trop vieux pour courir après les souris. Et ça marche bien. Seulement, les start-up qui sont pleins dans les journaux et qui ont valu en bourse des prix idiots, ceux qui ont cru faire fortune là-dessus, eh ben ils ont été déçus, disons. Mais quand on est complètement loufoque à payer je ne sais quel prix, enfin vous savez ça aussi bien que moi, hein. Il fallait qu'une entreprise NTIC soit en perte pour qu'elle vaille 10 fois son chiffre d'affaires. Il y en a des bonnes, hein. Pas dire qu'il y en a de mauvaises, hein. Mais ça n'est pas la flambée et l'écrasement qu'en parlent les journaux. Pas vrai.
Allora, io volevo intervenire perché vorrei essere un po' concreto, insomma, siccome mi è stata presentata la serata, già alcuni amici mi hanno raccontato di lei e effettivamente il poterla incontrare mi incuriosisce. E da subito io dico che ci sono delle affinità, adesso anch'io vengo da una famiglia numerosa, anche noi abbiamo un gene un po' particolare in tutta la famiglia, che è quello di vendere, di intraprendere, anche solo per il gusto di poter dire ho fatto contento uno, ho fatto questo, insomma, e ho sempre inteso il lavoro in fondo come luogo dove io potessi realizzare qualcosa. Io sono un dipendente con un animo, mi permetto di dire, comunque imprenditoriale, che cerca in quello che fa di poter essere creatore di qualche cosa, in questo coordinare, condividere con gli altri questa realizzazione. Questo è come premessa. Poi lei nel raccontare tutti i dati che lei elencava, tutte queste percentuali, casualmente tornano fagiolo come fascia d'età, e io ci sono dentro nella maggioranza, mi sembra di capire il tipo di azienda, e io sono uno che ha voglia di intraprendere e ci siamo anche lì. Aggiunge adesso tra l'altro che la percentuale massima delle aziende che sono state realizzate è nei servizi, e io ho un'idea nei servizi. Allora io vorrei essere molto, non so se questo poi è solo un inizio, è un lanciare il sasso, mi piacerebbe poterla incontrare o farmi dire come io, italiano, quindi non francese, possa essere aiutato dalla sua struttura a realizzare un'idea di impresa che ho, che io reputo molto interessante e di profitto. Questa è la domanda che le faccio, e quindi come fare per continuare questo rapporto.
Mais cher monsieur, c'est facile de répondre. C'est pas à moi de poser la question. À qui vous devez poser la question? Vous devez poser la question à la Compagnie des œuvres. Puisqu'il ne faut pas plus d'une demi-journée pour aller se faire aider et rentrer chez soi. Je suis un peu loin, moi. Hein. Par contre, vous pouvez être un aiguillon pour qu'il le fasse. Et d'après ceux que j'ai vus ce soir, ils en ont vraiment envie.
Io non sono un imprenditore, non ho attività in proprio, però volevo chiedere, pensando alla sua esperienza che è nata 40 anni fa, se può aiutarci a capire se ci sono stati dei momenti di difficoltà nei quali lei ha pensato che, sto parlando quindi della sua attività personale, nei quali lei ha pensato che la cosa non poteva crescere, dallo stabilimento di 600 metri quadrati non si poteva andare magari oltre, o comunque dei momenti in cui, come in questo momento, molte attività che sono partite fanno difficoltà a trovare il giusto trend di sviluppo. Questo lo dico anche in relazione a quella che possa essere stata la sua azione, diciamo così, di formazione verso i nuovi imprenditori o i nuovi creatori che ha catalizzato intorno a sé.
C'est une question ouverte ou fermée, je ne sais pas. Parce que dans mes 40 ans de vie professionnelle, comme tout le monde, j'ai eu des coups durs. Je vous ai d'ailleurs évoqué le plus difficile, qui est le jour où j'ai dû licencier 600 personnes. Bon. Et les épreuves de chef d'entreprise les plus difficiles, c'est effectivement de se séparer des personnes. C'est agréable d'embaucher. Pour débaucher, c'est pas marrant. Alors, les finances ne m'ont jamais beaucoup inquiété parce que je peux vous donner le truc là-dessus. Il faut toujours avoir plus d'argent que le banquier ne le croit. Arrangez-vous pour que ce soit toujours lui qui vienne vous rendre visite et pas vous lui rendre visite. Bon, alors en plaisanterie, mais moins plaisante tout de même, c'était mon métier, je vais essayer de le résumer dans ceci. Les chefs d'entreprise ne regardent pas assez leur bilan. Ils regardent leur compte d'exploitation. Parce qu'on vit par son compte d'exploitation, qui est le chiffre d'affaires et toutes les dépenses. Mais on meurt par le bilan, c'est-à-dire par la trésorerie qu'on n'a pas. Et la trésorerie, il faut l'avoir préparée à l'avance. Dans nos affaires, alors là, je remets ma casquette de mulier, tous les ans, on a les plans des 5 années suivantes pour chacune des entreprises en compte d'exploitation et en prévision de bilan. Comme je ne suis pas fatigué, je peux continuer un petit peu sur ce sujet. Je reviens une seconde chez les meuliers, ça va me changer, moi. Ma famille est donc propriétaire de grand nombre d'entreprises. Et ici, je proclame que les propriétaires, les capitalistes, les propriétaires ont une fonction dans l'entreprise. Et quand ils ne l'exercent pas, ils ne savent plus l'exercer, ils perdent le droit de l'exercer. Et il nuise à l'entreprise. Le propriétaire ne doit pas diriger l'entreprise, parce que, sauf quand il en est le dirigeant, hein, bien sûr, sauf si c'est lui qui l'a créée, bien sûr, mais quand elle devient importante, ou quand c'est celle de son père ou de son frère. Par contre, les actionnaires, je parle plutôt au pluriel. Chez nous, on est 450. Hein. Non. On a le droit et le devoir de nommer la direction, c'est-à-dire de la liquider si elle n'est pas bonne, c'est-à-dire de la rémunérer, c'est-à-dire de veiller à ce qu'elle soit heureuse dans son travail. Deuxièmement, on doit approuver les stratégies de développement qu'il nous propose. On doit être informé des numéros 2 qu'il embauche. On doit lui mettre des limites financières, capitaux propres sur total de bilan, capitaux propres par rapport aux immobilisations, frais financiers par rapport à l'excédent brut d'exploitation. Il n'y a pas beaucoup de ratios, il y a 5-6 ratios qui encadrent, et on ne peut pas dépasser les emprunts au-delà de ces... Bon. Et dernier conseil... Les propriétaires qui ne sont pas dirigeants ont le devoir d'exercer un contre-pouvoir ou de surveillance. Surveillance, pas tout à fait contrôle, hein, oui. Parce que ça doit obliger le dirigeant d'entreprise à ne prendre que des décisions logiques. On lui dit jamais « tu as tort de prendre ça ». On lui dit « pourquoi tu fais ça ?» Et le simple fait pour lui de devoir justifier sa décision fait que tout seul, il enlève les mauvaises. Mais s'il n'y a personne en face de lui pour lui poser cette question, il risque de prendre des décisions trop rapides. Ça, c'est pour vous montrer que j'étais un petit peu dans les entreprises tout de même.
Mi permetterei di farle un'ultima domanda, ritornando all'esperienza di entreprendere. Mi piacerebbe capire, lei ha parlato di un termine, lo chiamate il prescelto. Le qualità di questa persona, di questo uomo, e poi anche all'inizio della sua descrizione di queste imprese, lei ha parlato della loro riuscita, vorrei capire di più, ci spiegasse meglio quando un'impresa nella vostra visione riesce, e se posso, avendo fatto voi coincidere l'impresa con l'uomo, chiederle infine quando quindi l'uomo si compie.
On peut prendre la question par plusieurs bouts. Hein. Assez loin en arrière, je dirais, pour être chef d'entreprise, il faut des défauts. Dans les gens qui n'aiment pas beaucoup les défauts, je dirais des caractéristiques. D'abord, il faut être un entêté. Penser qu'on a toujours raison. Mais en même temps, être à l'écoute de quelqu'un qui dit pas comme vous. Non pas pour lui donner raison, mais pour changer sa propre raison, et j'ai encore raison. Deuxièmement, et ça fait hurler beaucoup de monde, il faut aimer l'argent. Alors ceux qui sont très loin de ce bazar-là, ils n'ont pas compris que, mais vous savez bien, que aimer l'argent, ça veut dire aimer réussir. Et dans la vie économique, l'argent, le compte bancaire, est un bon signe de réussite ou d'échec. C'est pas le seul. C'est pas le seul, hein. La satisfaction du client et la satisfaction des... Bon. Mais s'il n'y a pas assez de sang, s'il n'y a pas assez d'essence dans le réservoir, c'est-à-dire de l'argent, on meurt. Hein. Alors, la question plus pernicieuse, vous me demandez si je porte, j'ose porter un jugement de savoir s'il a réussi. Non. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que pour moi la réussite c'est beaucoup lié au bonheur. Et quand vous regardez vraiment quelqu'un avec intérêt, vous voyez assez vite s'il est heureux ou malheureux. Surtout si on ne se permet pas de juger, hein. Parce que dès qu'on juge, la gratuité n'y est plus, et on n'est plus en relation de vérité. Alors, nous qui avons comme objectif, non pas de faire réussir l'homme dans sa vie tout entière, mais qu'il réussisse le moyen par lequel il a cherché à se fabriquer, c'est-à-dire l'entreprise, bon, c'est facile de savoir. La moyenne de nos lauréats ont une croissance de chiffre d'affaires annuel de 35% et d'effectifs de 25%. Bon. Alors, personne n'est une moyenne et il faut regarder chaque individu. Mais ça montre tout de même que, globalement, notre système, même s'il paraît être très humaniste, est bougrement efficace sur le plan économique. Et puis on doit peut-être faire des progrès qui viendront d'Italie.
Possiamo fare un'ultimissima domanda, visto?
Una curiosità. Come mai un imprenditore o degli imprenditori che hanno un'esperienza di grandissima impresa dal punto di vista dimensionale hanno focalizzato questa loro azione soprattutto su realtà molto piccole, da quello che abbiamo capito? Non c'è il rischio di escludere dal vostro campo di azione proprio le imprese più di frontiera, che richiedono più intensità di tecnologia o professionalità più forti, più sofisticate? O ci sono dei motivi diversi per cui, non so, di vostra efficacia o semplicemente perché vi trovate più a vostro agio nel seguire questo tipo di imprenditori piuttosto che altri?
Pourriez-vous reposer les quatre premiers mots de votre question?
Come mai degli imprenditori che hanno una esperienza di grandissima impresa in termini dimensionali hanno focalizzato...
Stop!
Ok.
J'en sais rien et ça m'intéresse pas, c'est pas avec eux que je travaille. Moi, je travaille avec des chefs d'entreprise de 100 à 1000 personnes. Au-delà de 1000 personnes, ils peuvent être très utiles pour lancer une association. Pas pour la faire marcher. Pas pour aider les petits créateurs. En français, je ne sais pas si en italien, ça va se comprendre. Attendez, je vais vous dire une phrase. On dit que ces chefs d'entreprise-là de grande taille, c'est des gens qui racontent toujours « Yaka Faucon ». Yaka Faucon, comment ça se dit en Italie? Enfin, je veux dire par là, et ils sont juste capables de donner des ordres et pas des conseils. Et moi, je suis dans une famille de très grosses entreprises. C'est vrai. Mais je vous ai déjà dit tout à l'heure, je suis André Mullier. Pas Gérard.
Non mi resta quindi che ringraziare André. Questa sera abbiamo fatto l'incontro con un imprenditore, con un vero uomo, professionista, con un creatore, potremmo dire a questo punto. Lo ringraziamo di cuore per... Mi limito a ricordarvi i due prossimi incontri di questo ciclo di... dal nome Conversazioni Leonardo. Il prossimo è il giovedì 19 aprile, dopo Pasqua, sarà in via Zebedia 2, incontreremo due esperti di statistica, Maurizio Sanarico, presidente di Nustat, e il professor Vittadini dell'Università Milano Bicocca. Il titolo dell'incontro sarà Dai modelli al progetto, dalla realtà all'impresa. L'incontro finale, il terzo, sarà il 23 di maggio, sempre presso la sede di via Zebedia 2. Il titolo, La forza del business, della business idea, sogno da costruire e realtà da amministrare. Incontreremo due personaggi dal percorso estremamente interessanti e dai risvolti umani abbastanza differenti, che sono il Serino Piol, attualmente presidente di Pino Venture, e Francesco Silvano, attualmente presidente dell'ospedale Bambin Gesù. Ringrazio di nuovo tutti gli intervenuti e il nostro relatore di nuovo.